Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. En quelques jours, plus d'un million d'exemplaires d'un même livre sont sortis des presses. Il ne s'agit pas du dernier roman d'un auteur à succès, mais plus précisément d'un guide, le fameux guide du chemin. Au jour prévu, en quelques heures, la célèbre couverture rouge et bleue fait son apparition à la devanture de toutes les librairies. Des milliers d'exemplaires sont expédiés dans le monde entier à l'attention des futurs touristes qui n'imaginent pas visiter la France sans cette sorte de bible qui leur permettra, les yeux fermés, d'échanger leurs dollars, leurs livres sterling, leurs escudos, leurs roubles ou toute autre devise contre quelques fines spécialités de la gastronomie française.
Bonjour François Régis Caudry.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau dont on ne parle pas la bouche pleine parce que nous allons pouvoir déguster ensemble la dernière livraison du guide du chemin. Non, du guide Michelin, pardon. Des bêtises. Les auditeurs vous connaissent pour votre émission sur France Inter, on va déguster. Les lecteurs vous connaissent puisque votre livre on va déguster, François-Régis Gaudry et ses amis, rencontre un grand succès en librairie. Mmh. Vous êtes aussi journaliste à l'Express et c'est aussi à ce titre que nous vous accueillons aujourd'hui pour parler de la sortie de ce nouveau livre. Alors, on n'est plus au tirage d'un million d'exemplaires, mais ça reste un événement mondial, le guide Michelin.
Il y a encore quelques années, on disait dans les années 2010-2012, qu'il vendait jusqu'à 350 000 exemplaires par an, ce qui faisait quand même du guide rouge un best-seller annuel. Là, depuis quelques saisons, ce serait plutôt quelques dizaines d'exemplaires. Donc évidemment,
dizaines de milliers.
Quelques dizaines de milliers d'exemplaires, ouais. Mais évidemment, donc il n'y a pas le même impact en librairie. Mais ça reste quand même un raout, une espèce de barnum médiatique colossal qui agite tout le milieu et qui remplit encore les colonnes des journaux.
Et alors ce petit livre rouge, enfin ce gros petit livre rouge, est-ce que il garde toujours son influence quand on voit les réactions de joie de la part, alors cette année, Monsieur Lesquer au 5, restaurant dirigé par Eric Baumard, a récupéré une troisième étoile méritée. Alain Ducasse a récupéré au Plaza Athénée un troisième macaron. Ces trois étoiles pour Ducasse et pour Lesquer étaient annoncées dans les chuchotis de Pudlowski et d'autres depuis plusieurs semaines. On annonçait aussi celle de Joël Robuchon, qui n'en a eu que deux. Comment ces chefs réagissent-ils?
Bah, ils réagissent et voire même ils surréagissent. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a beau parler du déclin du Michelin, les chefs sont évidemment extrêmement attentifs au palmarès du Michelin chaque année. D'ailleurs, les semaines qui précèdent en général la révélation du palmarès sont très souvent des périodes d'attente un petit peu stressantes pour les chefs, c'est évident. On parle souvent du déclin du Michelin d'ailleurs, mais moi je pense que le Michelin sera vraiment en déclin le jour où on arrêtera d'en parler. Les chefs sont évidemment extrêmement attentifs au verdict du Michelin, tout simplement parce que ça reste aujourd'hui, à notre époque, le système de notation qui est le système de référence. Un chef qui a une étoile, deux étoiles, c'est toujours encore aujourd'hui une manière de se situer par rapport à ses pairs. Monter dans les étoiles, monter dans la hiérarchie, dans l'élite de la gastronomie, c'est aussi une façon de situer son talent par rapport à celui de ses pairs. C'est une façon d'obtenir une reconnaissance à la fois de sa clientèle, du public, de ses équipes. Donc, les quelques chefs, et ils sont vraiment une minorité, qui disent que le guide Michelin, finalement, ils s'en moquent, c'est en fait pour mieux masquer une espèce de frustration de pas être allé assez loin dans les étoiles. Mais tout le milieu est quand même soumis à cette espèce de système méritocratique que le guide Michelin a su instaurer depuis maintenant plus d'un siècle. Et même si encore une fois le Michelin perd de son influence, même si peut-être le Michelin est une affaire un peu plus franco-française, parce qu'avant le Michelin était très conquérant, le Michelin faisait la pluie et le beau temps en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. Aujourd'hui on sait qu'il y a d'autres systèmes de notation qui marchent un peu sur les terres du Michelin, qui sont concurrents de ce guide. Vous prenez comme exemple le World 50 Best, qui est ce classement anglais des 50 meilleurs restaurants du monde, qui a été fondé maintenant il y a plus d'une dizaine d'années par le magazine britannique Restaurant. Ça, c'est un système de notation, un classement, un ranking, comme ils disent, qui est un rouleau compresseur médiatique et qui effectivement est un peu plus étudié par les chefs désormais, ou un peu plus référence que ne le serait le Michelin.
Est-ce que cette pression médiatique est supportable pour les plus grands chefs? Parce que depuis Vatel, sans oublier Bernard Loiseau qui s'est suicidé malgré ses 3 étoiles au Michelin, si l'on pense aujourd'hui à Bernard Violier qui vient de se donner la mort alors qu'il était lui aussi 3 étoiles au Michelin et consacré chef des chefs par ses pairs.
Moi, je crois que c'est très compliqué de faire des classements, mais ça concerne la gastronomie comme tout type de classement. On a une espèce maintenant de, on assiste à une maladie du classement. On fait des classements de tout et les critères sont forcément un peu arbitraires. Il y a une certaine, en plus, dans le cas du classement des World 50 Best, clairement une véritable opacité dans la méthodologie. Moi, j'ai fait partie pendant 5 ans de ce jury. J'ai fait partie du jury français. Chaque année, je donnais mes 5 meilleurs restaurants que je fréquentais dans le monde entier. J'ai exigé à un moment donné auprès des instances dirigeantes de ce World 50 Best des règles déontologiques plus strictes, comme par exemple fournir la preuve qu'on a bien visité un restaurant en fournissant une note et non pas uniquement en désignant l'un parmi nos 5 restaurants préférés, le restaurant dont on a entendu parler parce que c'est le restaurant qui fait l'objet entre guillemets d'un buzz planétaire. J'ai réclamé ces modifications déontologiques et méthodologiques qui n'ont jamais été modifiées. Par conséquent, j'ai décidé de claquer la porte, mais comme beaucoup d'ailleurs de journalistes qui ont participé à cette espèce de grand instrument de mesure des meilleurs restaurants du monde, partout dans le monde. Donc moi, j'accorde assez peu de crédit, en fait, à ce classement anglais. Mais j'ai autrement plus de respect pour le Michelin.
Je voudrais un melon au Porto. Après, je prends un œuf en gelée. Un maquereau aux aromates. Un foie gras en brioche. Un écrevisse à la nage.
À la place du foie gras, monsieur?
Non, en plus. Non, c'est pas tout. Non, non. Et puis, alors, je voudrais aussi un rouge et grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, la choucroute, elle est comment, la choucroute?
Très très bien, monsieur, oui.
Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein?
Bien, monsieur. Merci.
Si vous voulez faire vite quand même, parce que je suis assez pressé.
Entendu, monsieur.
Qui accorde du crédit justement en dehors des médias qui relaient ce type de classement, comme le classement des 100 plus grands chefs organisé par le Quai d'Orsay?
Ça me paraît extrêmement compliqué. Concernant le classement justement anglais, c'est l'agrégation des votes de plusieurs jurys dans une centaine de pays dans le monde entier. Et on fait une espèce de moyenne et on obtient comme ça cette espèce de baromètre qui correspond en fait au classement des restaurants dont on parle le plus. Donc ça donne à peu près une idée éventuellement de la surface médiatique des restaurants qui sont classés. Donc là, on est dans une espèce de caisse de résonance mondiale avec en plus des sponsors industriels qui amplifient le buzz et qui créent comme ça, un énorme effet de souffle qui d'ailleurs se vérifie dans la fréquentation des restaurants. Quand vous êtes dans le World 50 Best, je peux vous assurer que même le premier chef qui est 11e de ce classement dans l'édition 2015, il se trouve que c'est Mauro Colagreco, le chef du Mirazur à Menton, qui est un chef argentin mais de culture gastronomique française. Le fait d'avoir été classé 11e de ces 50 meilleurs restaurants du monde lui a valu 4 mois de réservation. Ça prouve que le public est évidemment en attente aussi de ces classements. On aime classer les restaurants, oui, comme on aime classer les universités, comme on aime classer les hôpitaux.
C'est un peu un marronnier de presse magazine.
Exactement. C'est... Sauf que là, il y a effectivement un effet vraiment planétaire.
Et d'édition. Oui, alors que le Michelin ne classe pas, par exemple, les 3 étoiles ne sont pas classées de façon hiérarchique, mais de façon alphabétique.
Le guide Michelin, en fait, il a mis en place une espèce de système méritocratique un peu inspiré des valeurs de la Troisième République. L'idée étant...
Ça correspond à l'époque.
Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire l'idée d'encourager l'excellence gastronomique française en attribuant 1, 2 ou 3 étoiles. étoiles à des chefs, sachant qu'en fait cet effet de notation n'est apparu que dans les années 30, parce que au départ le guide Michelin, on le sait, n'avait pas du tout de vocation gastronomique.
Comme son nom l'indique.
C'est ça, c'est-à-dire que c'était ni plus ni moins en 1900 lors de sa création, c'était une espèce d'annuaire de vade-mecum qui était offert gracieusement aux automobilistes par Michelin, donc une marque de pneumatique, qui avait dans l'idée, puisque on partait à l'aventure sur des routes non goudronnées, de fournir aux chauffeurs un annuaire où se trouvaient, comme on disait à l'époque, les dépôts de carburant, les ateliers de réparation, et puis éventuellement les hôtels, parce que on faisait une escale dans un village de France, etc. Donc au départ, c'était uniquement une espèce de petit annuaire vraiment réservé aux automobilistes. Et puis peu à peu, à partir de 1926, le guide Michelin a commencé à signaler les hôtels qui étaient dotés d'une table renommée. Et puis peu à peu, apparition dans les années fin des années 20, apparition des étoiles, une étoile qui signalait vraiment une table renommée. Et puis ensuite dans les années 30, 31 pour la province et 1933 ensuite à Paris, c'était l'idée de créer vraiment une, deux, trois étoiles, ce système hiérarchique, avec un vocabulaire d'ailleurs très lié au voyage. Et d'ailleurs qui est un vocabulaire qu'on retrouve encore aujourd'hui, puisque deux étoiles correspond en fait à mérite le détour. C'était l'idée que on peut aller dans un deux étoiles et faire un détour pour y aller. Et trois étoiles, c'est vaut le voyage. Donc il y avait vraiment cette idée que on mêlait le voyage évidemment à la gastronomie. Et c'est vrai que la gastronomie française contemporaine, moderne, celle du XXe siècle, elle s'est vraiment développée grâce à l'automobile et grâce au guide Michelin qui a été un peu le révélateur de cette excellence gastronomique française et qui a vraiment construit notre paysage culinaire.
François-Régis Gaudry, nous avons écouté au tout début de l'émission un petit extrait qui sont les premières secondes du film Les loups, la cuisse de Claude Zidi, qui est un film qui a exactement 40 ans, qui est un film de 1976, dans lequel Charles Duchemin va être académicien. Donc on reconnaît ses talents d'écriture, ce qui n'a jamais été le cas dans Le Guide Rouge, contrairement au Goemio, où il y avait de vraies plumes qui écrivaient. Si l'on s'intéresse à ce film, on se rend compte aussi que ce film était très visionnaire, parce que quand Christian Fechner va chercher Louis de Funès, il raconte aussi la guerre qui peut exister entre l'agro-industrie et ce petit 1% de gourmands privilégiés qui peuvent s'offrir ces tables. Est-ce qu'aujourd'hui, le guide Michelin, qui s'affiche avec des partenaires comme la chaîne de magasins Métro ou d'autres marques de l'agro-industrie, ne succombe pas au péché qu'il dénonçait il y a quelques années?
J'ai vraiment l'impression que, en ouvrant la porte aux sponsors industriels, le guide Michelin renie véritablement ses valeurs d'origine. Comme vous le dites, dans L'aile ou la cuisse, Claude Zidi met vraiment en scène la rivalité entre, d'un côté, la caricature du guide Michelin qui incarnait vraiment la qualité, qui était
une exigence,
absolument, qui était un guide garant des traditions culinaires, face effectivement
et d'une intégrité puisque
déontologique, absolument, une intégrité éthique par rapport à la dérive ou les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agro-business ou ce qu'on appelle à plus forte raison la malbouffe. Et c'est vrai qu'en cela, sous ces dehors de comédie un peu pataude ou un peu caricaturale ou un peu populaire, quoi, il y a vraiment, me semble-t-il, une satire de l'époque extrêmement fine dans ce film Les loups la cuisse. Dire que 40 ans plus tard, effectivement, j'ai sous les yeux le carton d'invitation pour aller à la soirée du guide Michelin, ce qui se déroulait lundi dernier, puisque désormais le guide Michelin, d'ailleurs, qui était avant quand même réputé pour son austérité, pour son culte du secret, cède aussi, entre guillemets, au show médiatique, à l'américaine. Désormais, le palmarès est annoncé dans une grande cérémonie avec des confettis qui tombent du plafond, des écrans géants, de la musique, on se croirait dans un défilé de mode, alors qu'il y a encore quelques années, le guide Michelin, avec cette espèce de rigueur, presque de jansénisme auvergnat, était au contraire un guide qui faisait dans la sobriété, qui révélait son palmarès uniquement à travers une petite conférence de presse sans grands effets de manche. Là, non seulement il y a effectivement ce choix à l'américaine, mais il y a aussi ces cartons d'invitation qu'ils envoient aux journalistes. Michelin a le plaisir de vous convier à la soirée de lancement du guide Michelin 2016, et tout en bas du carton d'invitation, vous trouvez des grandes marques industrielles qui, à mon avis, n'ont pas grand-chose à faire là. C'est-à-dire que voilà le guide Michelin qui a quand même été véritablement un peu le révélateur de la ou l'accompagnateur de la gastronomie française tout au long du XXe siècle, qui a vraiment défendu une certaine idée de l'excellence française, donc aussi de la qualité, évidemment, en défendant la cuisine artisanale, faite à partir de produits, de petits producteurs et de produits d'exception qui font la gloire et la richesse de notre patrimoine, sans être trop cocardier, mais c'est le cas.
Qu'on ne trouve pas dans des supermarchés.
Absolument, et qu'on ne trouve pas dans des supermarchés. Et bien voilà, qui cède aux sirènes de l'industrie, et là, pour le coup, ça me semble très inquiétant pour l'avenir du Michelin, et je pense que par cela, par cette espèce de tabou qu'ils ont brisé, le guide Michelin perd de sa crédibilité, j'hésite pas à le dire.
Monsieur du chemin, les relais des cigales, ça vous rappelle rien? Spécialité italienne, du monde tous les jours, et vous m'avez enlevé mes 2 étoiles! Vous vous souvenez maintenant? Et vous m'avez ruiné! Mangez! C'est pas très bon, hein?
C'est même très mauvais.
Eh oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde.
Hein? Eh oui. Mais au relais de cigales, c'en était déjà.
Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais.
Hein? Parce que là, c'est pas vous?
Ah non! Oh. Tous les matins, c'est l'usine du grand patron.
C'est pas l'usine du grand patron, mais c'est des catalogues dans lesquels on a des plats aujourd'hui d'une qui ont l'air parfaitement finis et que l'on trouve dans nombre de restaurants et de brasseries.
Mais la fiction est devenue totalement réalité, hein. Alors, peut-être pas dans tous les restaurants, et je considère aussi, je vois plutôt le verre à moitié plein, et je considère qu'il y a du,
vous avez raison, moi aussi,
du progrès ces derniers temps. Mais il y a un certain nombre quand même de chefs de bistrot, objectivement, ou de brasserie aujourd'hui, à Paris et en région, qui ne sont plus des cuisiniers, mais des ouvreurs de boîte. Et ça, c'est une réalité. On le sait pas forcément, d'ailleurs, c'est pour ça que...
Oui, c'est pas écrit.
Différents gouvernements ont agi, notamment avec le label du fait maison, qui me semble être un certain progrès en la matière. Mais ce qui nous semblait totalement fictionnel et ubuesque dans le film de Claude Zidi est aujourd'hui effectivement une réalité. Et encore une fois, je pense pas que le Michelin encourage vraiment les chefs à se tourner vers l'excellence, le fait maison, quand ils accolent sur dans leur guide une pub ou dans leur carton d'invitation une pub pour Métro, qui est, comme on le sait, ce supermarché pour les chefs, où on trouve certes des produits de qualité issus du terroir français. Si vous voulez trouver vous pouvez trouver chez Métro évidemment des homards bleus vivants, des langoustines vivantes, une très belle criée, des produits frais. Vous trouvez le meilleur, mais vous trouvez aussi et surtout le pire. Et le pire, c'est des sauces toutes faites, c'est des plats cuisinés sous blister. C'est tous ces plats qui finalement facilitent la vie du chef et qui font encore une fois que le chef n'est pas un cuisinier dont la fonction première est de métamorphoser des matières brutes en un plat. Il se contente encore une fois de déchirer une languette, de mettre au micro-ondes et de servir dans sa salle. Et ça, c'est pas une caricature, ça existe quand même, différentes enquêtes le montrent, dans beaucoup, beaucoup et beaucoup trop d'établissements en France.
Et a priori, pas de restaurant trop qui figure dans ce guide, normalement.
On ose espérer, mais vers où peut-on aller en imaginant que finalement, à partir du moment où cette espèce de rempart qu'un guide, qui est une institution aussi importante que le Michelin, a finalement brisé pour laisser rentrer le loup en quelque sorte dans la bergerie, on ne sait pas où on en sera dans quelques années. Il faut être vigilant.
Il faut être vigilant, il faut aller vers des gens qui en a confiance et dont on voit d'où viennent les plats. Et alors, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ils sont quand même conscients que le prix est un facteur considérable, qu'aujourd'hui, qui peut s'offrir, enfin, je disais 1% de la population, mais peut-être moins que ça encore, qui peut s'offrir les tables du Michelin. Alors, ils ont inventé un nouveau petit guide qui est le guide des bonnes petites tables du guide Michelin, avec des tables à moins de 32 €, ce qui reste un prix raisonnable, mais quand même relativement élevé. Mais maintenant, on peut manger très très mal pour le même prix. Hein.
Oui, donc, absolument.
Mais alors, moi, ce qui me rassure quand même, c'est de voir qu'avec les gens d'omnivores, du fooding, il y a toute une génération de jeunes chefs, qui ne sont pas toujours issus d'ailleurs du sérail, hein, qui émergent avec l'ambition de nourrir les gens, mais sans rentrer forcément dans les codes du Michelin, même si des gens comme Bertrand Grébeau et Septime... Le nom du restaurant, du grand restaurant, finissent par avoir une étoile. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un signe fort qui dit arrêtons de nous prendre pour des imbéciles, et surtout par rapport à ceux dont la carrière repose et dont la survie de l'entreprise repose sur le gain ou la perte des étoiles, comment ça se passe là, Madame Loiseau était atterrée parce qu'elle avait perdu la troisième étoile du restaurant créé par son époux. Que devient un restaurant qui perd une étoile? Les dizaines de restaurants qui ont perdu leur étoile cette année.
C'est compliqué pour eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un peu le ciel qui leur tombe sur la tête. Vous évoquez Dominique Loiseau, qui est la veuve de Bernard Loiseau. Elle s'est exprimée dans la presse en expliquant tout simplement qu'elle était choquée par cette décision. Choquée par cette décision parce que elle a bâti depuis la mort de son mari, qui est, comme on le sait, décédé brutalement en se suicidant en 2003. Elle a continué à faire vivre cet empire en continuant même à développer des bistrots à Paris, à Dijon et ailleurs, en se reposant évidemment sur les trois étoiles de la maison mère. Donc imaginez quand le principal argument qui fait venir des Américains, des Japonais, des Brésiliens au cœur de la Bourgogne disparaît ou en tout cas s'amenuise, c'est un peu un monde qui s'écroule et il faut se réorganiser. Et c'est cela qui est un peu dangereux, c'est cette espèce de diktat qui me semble également assez sévère, tout simplement parce que ce qui fait la force du Michelin peut aussi faire sa faiblesse, c'est-à-dire le fait que le Michelin donne son avis ou attribue ses étoiles ou les retire sans exprimer une justification. Sans, comme vous le disiez, écrire un texte qui permet d'expliquer la raison pour laquelle ils attribuent ou ils retirent une étoile. Il y a donc une espèce comme ça de diktat un peu arbitraire, une espèce d'opacité dans la méthode et la décision, qui me semble être très compliqué à vivre aujourd'hui. Et cette grille de lecture du Michelin, évidemment, cette grille que le Michelin pose sur le paysage gastronomique me semble être assez cruelle quand même.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine, avec Alain Crugère.
Alors quand le directeur du guide Michelin, Michael Ellis, va dans un restaurant comme La Grenouillère d'Alexandre Gauthier, en laissant entendre des choses, ou comme Akram, où il se fait photographier avec le chef, qui fait un signe de victoire devant justement le critique Gilles Pudlowski, ce qui est quand même un manque d'opacité totale, quand il retire l'étoile, quand il ne la donne pas, est-ce qu'il n'y a pas même une forme de trahison ?
Je peux vous dire que dans le cas d'Akram, je crois que cette photo, Akram, que l'on voit prendre par l'épaule Michael Ellis, ça lui a coûté très cher. L'idée que le Michelin se soit senti prisonnier en pouvant être potentiellement accusé de connivence ou de collusion avec un jeune chef qui est en plus assez ambitieux, qui a un développement tous azimuts, n'a certainement pas plu au Michelin. Et ça, le Michelin a voulu clairement sanctionner, dans le cas de cet Akram Benalal, qui est donc ce jeune chef qui avait deux étoiles rue Lauriston et qui a ensuite développé des bistrots, des boutiques de madeleine salée. Même moi qui suis dans le métier, j'ai un peu de mal à suivre parce que le développement était tous azimuts. Là, très clairement, on sent la sanction du guide Michelin qui n'aime pas trop les ambitions un peu trop ostentatoires.
Alain Ducasse, qui est le plus médaillé en macaron Michelin de la planète. Oui. Cette année, il a défendu son meilleur ennemi, Joël Robuchon, en disant « c'est pas juste qu'il n'ait pas eu sa troisième étoile ». Ça, c'est un acte un peu courageux.
En tout cas, c'est quelque chose qu'on voyait pas il y a quelques années. Ça, c'est assez manifeste. Souvent, il y a quelques années, l'institution Michelin, fallait pas trop l'attaquer parce qu'on sait quand même que les étoiles du Michelin ont une importance économique. La fameuse règle selon laquelle, quand on a une étoile dans un restaurant à Paris ou en région, mais à plus forte raison en région où les clientèles sont peut-être un peu plus cloisonnées, souvent on disait une étoile équivaut à 30 à 40% de chiffre d'affaires en plus. C'est un peu moins vrai maintenant, mais tous les chefs qui
ça
sont...
Ça veut dire que celui qui la perd 30%?
Oui, c'est ça que ça veut dire. Dans le cas d'Alain Ducasse, maintenant il ose dire... à visage découvert. Jamais on aurait vu ça il y a quelques années. Ce qui est un peu inquiétant pour le Michelin, du reste. Ça veut dire que le Michelin, on l'a toujours critiqué, a toujours fait l'objet de débats. Le Goemio, d'ailleurs, était une alternative qui critiquait, qui incarnait la nouvelle cuisine et qui critiquait le Michelin qu'elle considérait dans les années 70 comme l'institution un peu conservatrice
ou réactionnaire. Le fooding apporte aujourd'hui.
Exactement. Le fooding, d'ailleurs, a joué un peu ce rôle de poil à gratter du Michelin. Mais, on respectait l'institution. Aujourd'hui, les langues se délient, et notamment dans le milieu. Il y a des chefs qui n'hésitent pas, effectivement, à manifester leur opposition ouverte au Michelin. Ce qui est, à mon avis, effectivement un peu inquiétant pour cette institution, qui est peut-être un petit peu moins crainte qu'avant. Bertrand Gribault, il a certes obtenu une étoile du Michelin, mais il n'a jamais cherché à cocher les cases pour avoir son étoile. Aventure à sa manière, et puis il se trouve que le guide Michelin a fini par lui accorder une étoile.
Alors, est-ce que c'est vrai que dans les cases à cocher, il faut qu'il y ait, par exemple, deux toilettes dans un restaurant pour avoir une étoile ?
Ben, c'est ce qu'on dit. Il y a des critères extra-culinaires qui entrent en ligne de compte. Ça, c'est une évidence. Qui sont liés, évidemment, au décor, qui sont liés à la tenue des garçons et des serveuses, qui sont liés au nombre de références sur une carte des vins et à quantité d'autres choses.
Et est-ce qu'il faut faire partie du sérail pour être dans le guide ? Est-ce que les autodidactes de la cuisine ont le droit de figurer dans le guide ?
Oui, mais peut-être avec un peu plus de retard ou avec un peu moins de réactivité. Bon, le plus grand autodidacte de la gastronomie française qui a obtenu ses 3 étoiles, c'est très certainement Michel Brasse. Voilà quelqu'un qui n'a pas du tout un parcours linéaire, classique entre guillemets, j'essaie d'être meilleur ouvrier de France, je fais les différents concours, mon tour de France. Il a développé son univers créatif de façon très isolée, dans une démarche singulière. Bon, le Michelin a évidemment fini par lui reconnaître un talent fou en lui attribuant ses 3 étoiles. C'est vrai que très souvent, lorsqu'on est très intégré dans son milieu toqué, que l'on a un réseau de chefs autour de soi, quand on assiste, c'est très important, à cette soirée par exemple, encore une fois, le Michelin, quand ils remettent leur palmarès, il vaut mieux se montrer.
Et alors le patron du Michelin, justement, c'est Michael Ellis ou c'est...
Julianne Caspar,
la personne qui est en charge des inspecteurs ?
Officiellement, la personne qui est responsable de la sélection France, c'est-à-dire vraiment du guide France qui est censé faire ses 320 tables par an, aller un peu partout en France, c'est Julianne Caspar, qui est une journaliste d'origine allemande et qui, depuis maintenant 5 ans, dirige le guide Michelin France. Après, évidemment, il y a le patron des patrons qui dirige toutes les éditions Michelin, Michael Ellis, qu'on voit au restaurant, et qui, s'il n'a pas officiellement de rôle éditorial, qui n'a pas vraiment de pouvoir de sanction ou de pouvoir de récompense, on sait pertinemment que son avis est essentiel et qu'il peut tout à fait donner ou opposer son veto, par exemple, aux décisions d'un inspecteur du Michelin. Ils sont une douzaine à sillonner toute la France, ou à plus forte raison, Julianne Caspar.
François-Régis Gaudry, si l'on évoque ce secret, on sait aussi que c'est un métier où la maçonnerie a un rôle très important. Est-ce qu'il faut être maçon pour avoir des étoiles ?
Alors, si tous les chefs étoilés étaient francs-maçons, ça serait, mais... après, ce ne sont que des hypothèses ou des supputations. Je suis peut-être pas le mieux placé pour savoir parce que je ne fréquente pas les coulisses du guide Michelin, mais on murmure effectivement qu'il y a évidemment des passerelles et des collusions importantes entre le milieu de la franc-maçonnerie et, de manière générale, le milieu de la gastronomie,
bien sûr.
Vous prenez les codes du concours du titre de meilleur ouvrier de France, on retrouve même dans les symboles utilisés des parallèles très importants entre ces deux milieux, ces deux univers. Après, entre le fantasme et ce qui se passe vraiment, c'est assez compliqué de trier.
Merci beaucoup François-Régis Gaudry, alors qui est venu sans ses amis du livre « On va déguster » que je recommande une fois encore chaleureusement. J'ai oublié de dire que il n'y a pas que le livre qui est très très bon, il y a aussi votre émission de télévision sur Paris Première.
Merci.
Attention, hein. 3, 4... Tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Competissa, la prise de son est de Bernard Laniel, le mixage de Pierre Monteil et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission, pour l'éternité et au-delà. Vous pouvez en tout cas la podcaster pendant 1 an. Et dans quelques instants, écoutez le journal sur France Culture.